Accent d'Europe, Catherine Roland.
De nombreux jeunes enthousiastes, venus d'Occident, s'enrôlaient pour l'été dans les brigades qui construisaient l'autoroute Zagreb-Belgrade. Tito était leur fidèle Castro.
Bonjour à tous et bienvenue dans Accent. Et oui, nostalgie quand tu nous tiens. C'est un sentiment en tout cas que beaucoup de Bosniens partagent aujourd'hui pour une Yougoslavie fantasmée. Dans un pays où le chômage frappe plus de 40% des habitants, où les dirigeants politiques sont discrédités par les scandales de corruption, le « c'était mieux avant » est un discours à la mode. 35 ans après sa mort, le maréchal Tito reste un modèle. Direction Tuzla, la troisième ville du pays, dans ce bastion ouvrier qui a perdu quasiment toutes ses usines à coups de privatisation et de délocalisation, la Tito-nostalgie reste très forte. C'est le reportage de François Sauvestre.
Sur l'une des deux principales artères de Tuzla, un bâtiment à l'architecture typique de l'époque communiste. C'est là que se retrouvent les fans les plus fervents de Tito. Ils ont même créé une sorte de club baptisé la Société Josip Broz Tito. La mission de cette association, c'est de faire vivre les idées du leader yougoslave et de combattre le fascisme, mais surtout pas, assure-t-on, d'entretenir un culte de la personnalité. Pourtant, passé la porte du QG, on ne voit que lui. En buste, sur toile, en broderie, les icônes envahissent les murs du petit bureau, et pas seulement les murs. Et voilà la sonnerie de portable du président de l'association, Zlatko Dukic, qui aime se replonger dans ses souvenirs.
Je l'ai rencontré, j'ai même une photo avec lui. C'était à l'époque où j'étais journaliste, le 26 novembre 1979, 6 mois avant sa mort. Quand on rencontre un symbole comme Tito, un symbole de la lutte contre le fascisme, on ne peut pas imaginer que c'est un être humain comme vous et moi, qu'il respire, qu'il marche, qu'il mange. Il était petit, il m'arrivait à l'épaule, mais à mes yeux, il était immense.
Et à la question « Tito était-il un dictateur ?», la réponse fuse.
Qui dit ça ? Les nationalistes ? Pour eux, Tito est un dictateur. Mais pour nous, non. On peut critiquer Tito comme leader du parti, comme leader politique, mais dans sa lutte antifasciste, il n'y a rien à dire là-dessus.
Dans le canton de Tuzla, Zlatko Dukic revendique 3000 membres. En plus des anciens combattants, un tiers seraient des jeunes qui n'ont jamais connu la Yougoslavie, sans compter tous ceux qui n'adhèrent pas, mais qui pensent que c'était mieux avant. Avant, quand le surnom de la ville était encore Tuzla la Rouge, c'était le centre yougoslave de l'industrie lourde avec les mines de sel, de charbon, les usines chimiques. Tout le canton y travaillait et adhérait aux idées du Parti communiste. Aujourd'hui, il ne reste plus que la centrale hydroélectrique, l'usine de traitement de sel et puis Dita, une entreprise de détergents à l'agonie. L'usine a été privatisée et croule sous les dettes. Emina Buzuljadzic y travaille depuis 1976. Cette syndicaliste acharnée ne peut s'empêcher de comparer les époques.
En Yougoslavie, nous avions tous une couverture sociale, nous avions droit à la santé. C'était gratuit. Aujourd'hui, je suis malade et je n'ai aucune couverture maladie. Sous Tito, j'avais le droit de choisir mes amis, j'avais des copains, des collègues serbes, croates, juifs ou encore roms. Aujourd'hui, les nationalismes sont tellement puissants qu'on en vient à me dicter qui je dois fréquenter ou non. Sous Tito, les usines fonctionnaient à plein régime. Il y avait une vraie solidarité entre les ouvriers. On construisait des usines. Aujourd'hui, on les privatise et on les ferme.
Aujourd'hui, Tuzla n'est plus aussi rouge. Comme dans tout le pays, le Parti communiste ne représente quasiment plus rien. Le PC ne convainc plus grand monde. L'année dernière, pour les élections législatives, les communistes ont présenté une liste avec des encartés, mais aussi des citoyens. Parmi eux, Zlatan Begic, professeur de droit à la fac. Outre l'abstention qui a atteint les 50%, il pointe d'autres causes de la déroute, les nationalistes et l'argent.
Aujourd'hui, les partis nationalistes contrôlent tout. Pour les campagnes, ils utilisent l'argent public. Avec la liste communiste, l'an dernier, nous avons réuni 4000 euros sur nos deniers personnels. Nous avons pu installer un panneau à Tuzla, un seul. La loi établit que le financement des partis politiques se fait en fonction du score aux élections précédentes et seuls ceux qui sont au pouvoir peuvent contester cette loi. Donc le système ne change pas. Est-ce que c'est ça la démocratie?
Et la démocratie, justement, tous ces titos nostalgiques seraient prêts à la troquer contre un retour à la Yougoslavie, prêts, disent-ils, à abandonner le droit de vote pour retrouver leur vie d'avant. Certains attendent même un nouveau tito.
C'est un véritable scandale qui agite la très catholique Pologne à quelques mois des JMJ. Le pays en est l'hôte l'été prochain. Le prêtre chargé de la communication de ce grand rout de jeunes pratiquants a été suspendu de ses fonctions. Et c'est la raison qui serait scandaleuse. Il est devenu papa. Maja Szymanowska nous appelle de Varsovie.
L'information a fait l'effet d'une bombe. Le prêtre Tomasz Kijowski, quadra jovial, était un ecclésiastique très populaire à Cracovie, surtout parmi les jeunes croyants. C'est tout naturellement qu'il a été nommé voilà un an porte-parole des Journées mondiales de la jeunesse qui doivent se dérouler en Pologne en 2016. Un poste à responsabilité, l'ancienne ville du pape Jean-Paul II voudrait attirer 2 millions de jeunes. Grand sportif chaque année en pèlerinage avec des groupes de jeunes vers le monastère de la Vierge Noire à Częstochowa. Tomasz Kijowski supervisait la mise en place du bénévolat et de la page internet pour les JMJ 2016. Et c'est lors d'une réunion de préparation que le prêtre est tombé sous le charme d'une des bénévoles de 22 ans. En juillet dernier, une petite fille est née de cette union et le prêtre a décidé de reconnaître l'enfant. Le porte-parole de son ordre des Salésiens a déclaré que Tomasz Kijowski avait lui-même demandé de quitter la soutane et de se consacrer à son rôle de mari et de père. L'information n'a été révélée qu'à la mi-octobre. Un coup dur pour l'Église catholique en Pologne qui ne compte pas revenir sur l'obligation du célibat des prêtres. Pourtant, d'après le sociologue spécialiste de l'Église, Józef Baniak, 60% des ecclésiastiques entretiendraient des relations avec des femmes. Les enfants de ces unions ne savent souvent pas que leur papa est un religieux. Pourtant, discrètement, l'Église paie des pensions alimentaires pour aider la progéniture de ses membres sans que cela ne s'ébruite. L'affaire Tomasz Kijowski n'est certainement pas une bonne publicité pour l'Église polonaise qui a de plus en plus de mal à attirer les jeunes. En 10 ans, ils étaient 40% moins nombreux à se déclarer pratiquants.
Quel avenir pour les petites salles indépendantes de Londres, celles qui ont fait débuter des artistes tels que Cliff Richards, Madness ou encore Amy Winehouse. Aujourd'hui, elles sont en danger. En 2007, il y en avait 136, il n'existe que 88 de ces salles désormais. Et dans le quartier de Soho, leur disparition est encore plus flagrante. On est passé de plus d'une centaine de salles à une dizaine seulement. Les grassroots venues, comme on les appelle, ont laissé place à des bars à cocktails bobo ou encore à de nouveaux immeubles. L'industrie musicale et la mairie de Londres ont donc décidé d'unir leurs forces pour tenter d'enrayer le déclin. C'est le reportage de Marie Billon.
Which is our single that came out today. It's called Owning a Vampire. We've got a video coming out tomorrow for Halloween. It's very Halloween based.
Very spooky.
Anna Piranha, une chanteuse néo-zélandaise. C'est sur la scène du Dublin Castle, un vieux pub du quartier de Camden, au nord de Londres, qu'elle a choisi de se produire pour lancer son nouveau single, Only a Vampire. Tout au fond du pub, la scène n'est pas bien grande, pourtant c'est un tremplin pour de nombreux artistes depuis plus de 50 ans. Jessica est manager du Dublin Castle.
L'endroit est encore plus vieux que le rock'n'roll. Le pub a ouvert pendant la révolution industrielle pour les cheminots irlandais. L'établissement n'a jamais fermé, mais il a évolué pour devenir un pub musical. Le groupe Madness a commencé ici, Amy Winehouse aussi, ou les Arctic Monkeys et les Killers. Ils sont tous passés sur notre scène.
Pas étonnant donc qu'Anna Piranha ait littéralement traversé la moitié du globe pour venir jouer ici. Et le Dublin Castle n'est pas une exception. Dans toute la capitale, les scènes indépendantes sont toujours prisées par les jeunes musiciens. C'est aussi ça qui fait la réputation de Londres. Pourtant, depuis plusieurs années, elle ferme en grand nombre et pour plusieurs raisons. À Camden ou dans le centre, à Soho, les quartiers se boboisent. Les nouveaux arrivants paient cher pour un appartement bien placé et n'apprécient pas d'être
être gênés par la musique live au sous-sol. C'est le genre de problème que le Dublin Castle a rencontré. Pour Jeff Horton du 100 Club sur Oxford Street, l'un des boulevards de la capitale, le problème est différent.
À cause de notre emplacement, les coûts explosent. Le loyer augmente de 35 à 40% tous les 5 ans depuis je ne sais combien de temps. Quand j'ai commencé, il y a 30 ans, on payait 22 000 euros par an. Maintenant, c'est 250 000. Et on ne peut pas augmenter le prix à la même vitesse. Ça ferait quoi? 30 euros la pinte, 120 la place de concert. Les gens ne viendraient plus.
Jeff a donc créé un partenariat avec une célèbre marque de chaussures, Converse, ce qui lui permet de partager les coûts. En contrepartie, il organise des événements d'entreprise. Jeff s'est aussi investi dans un nouvel organisme créé en janvier 2014, justement pour sensibiliser aux problèmes et aider les petites salles qui ont du mal à s'en sortir. Mark David est le président de ce Music Venues Trust. Aux côtés d'une représentante de la mairie de Londres, il a participé à la présentation d'un rapport sur les difficultés de l'industrie. C'était mi-octobre, en plein cœur de Soho, dans l'ancien studio des Rolling Stones, transformé en magasin de guitare et qui fait aussi salle de concert. Mark David qui dresse un état des lieux très préoccupant.
Pas de scène indépendante, pas de nouveaux talents, c'est tout le problème. Il faut que les jeunes groupes qui veulent tenter leur chance aient une scène.
Car si les investissements dans les salles indépendantes s'épuisent, leur fréquentation, elle, n'est pas en baisse. C'est pour ça, selon Keith Ames du syndicat des musiciens, que la mairie a décidé de donner un coup de main.
Quand vous demandez aux gens quel est votre meilleur souvenir musical, ils vous diront « Ah, c'est quand j'ai vu tel ou tel artiste sur scène, c'est pas quand j'ai écouté ce disque ». Les gens aiment ces salles de concert, ils y font des rencontres. On vient à Londres pour Big Ben et Buckingham Palace, mais aussi pour ces scènes mythiques.
Le Music Venues Trust et la mairie ont donc dessiné un plan d'action pour sauver les scènes indépendantes de Londres. Le problème n'a encore jamais été pris à bras-le-corps, donc la stratégie explore de nombreuses options, avoue Mark David.
Il faut faire plus attention à ces petites scènes quand on donne l'autorisation à un promoteur immobilier de construire un immeuble ou de reconvertir un bâtiment existant. La mairie peut aussi mettre la main à la pâte et donner son opinion au cas par cas. Mais l'industrie musicale aussi doit s'impliquer. C'est pour ça qu'on a créé Nightmare. L'idée, c'est de créer des ambassadeurs pour qu'ils surveillent la situation de l'industrie de la nuit dans un quartier donné en disant « voilà ce qui marche et ce qui ne marche pas ».
Tim Arnold a déjà commencé à jouer les Vigies. Il est un des cofondateurs de Save Soho avec l'humoriste Stephen Fry et l'acteur Benedict Cumberbatch. Ce qu'ils veulent, c'est que le Soho jeune, branché et artiste ne disparaisse pas avec la boboisation.
Il y a beaucoup de promoteurs immobiliers qui ont Soho en ligne de mire. Certains sont basés très loin d'ici, ils ne connaissent pas le quartier, n'ont pas d'affection particulière pour l'endroit. D'autres sont basés par ici et ils reconnaissent qu'il y a un patrimoine à entretenir et font de leur mieux.
Save Soho, le Music Venues Trust et les musiciens reprennent espoir. Ils ont maintenant au moins l'impression d'avoir gagné un combat. Ils ont été reconnus par les autorités locales comme l'un des bijoux de la cour londonienne. Les petites scènes indépendantes ont maintenant des alliés haut placés.
Elle vient d'être publiée. L'étude de l'INSEE sur le travail domestique est un petit événement car l'enquête n'est menée que tous les 12 ans. Sans surprise, le millésime 2015 nous montre une fois de plus que les femmes continuent d'en faire beaucoup plus à la maison que les hommes. Mais bonne nouvelle, cette inégalité entre les sexes diminue. Bonjour Daniel Vigneron.
Bonjour Catherine.
Alors Daniel, les hommes en font-ils vraiment plus à la maison, plus qu'il y a 25 ans ?
Je vais terriblement vous décevoir, Catherine, mais la réponse est non. Par rapport à 1986, ils consacrent simplement 6 minutes de plus par jour aux tâches domestiques, en moyenne 2h et 13 minutes par jour. En fait, si la répartition des tâches est moins inégalitaire, c'est que les femmes y consacrent, elles, 1h05 de moins qu'il y a 25 ans, ce qui fait quand même 4 heures quotidiennes.
On dit pourtant que les messieurs aiment de plus en plus s'affairer en cuisine.
Ce n'est pas faux. Les inégalités de participation se sont bien réduites en matière de préparation des repas. et quasiment un homme sur deux participe à la cuisine. Cela dit, 4 femmes sur 5 font la cuisine. Pour le ménage, le différentiel homme-femme diminue également et 1 homme sur 3 s'y consacre assez régulièrement. En revanche, seulement 1 homme sur 4 fait les courses et il n'y a qu'un homme sur 10 pour s'occuper du linge. Quant aux soins aux enfants, là, ça ne bouge guère et les femmes y consacrent 3 fois plus de temps que leurs conjoints. Notons qu'en général, plus il y a d'enfants dans un ménage, plus la part de travail domestique effectuée par la femme est importante.
Dans cette répartition des tâches, Daniel, comment se place la France sur le continent européen ?
Pour le mesurer, nous devons recourir aux statistiques de l'OCDE concernant le travail non rémunéré. Un travail qui, aux 3/4, concerne le travail domestique et les soins aux enfants. Dans les pays développés, en moyenne et par foyer, 1/3 du temps consacré à ces travaux non rémunérés est effectué par les hommes. La France n'est pas mal placée en Europe avec 38% de travail non rémunéré masculin. C'est à peu près la même chose en Allemagne, en Suède, en Belgique, aux Pays-Bas. Mais le Royaume-Uni, notons-le, fait un peu moins bien avec 35% de temps masculin.
Alors, quels sont les champions ? Quels sont les cancres ?
Ah, c'est très net. Avec 42 et 43%, les Danois et les Autrichiens mâles se montrent les plus participatifs. En revanche, à 23, 24% de participation, Portugais et Italiens apparaissent comme les plus passifs.
Et Daniel, est-ce qu'il y a des indicateurs d'inégalité plus globaux ?
Oui, le plus connu et sans doute le plus cohérent étant celui de l'ONU qui publie l'indice d'inégalité des genres, le GII. Cet indice combine des données sur la santé, mortalité maternelle, taux de natalité des adolescentes, sur le degré de participation à la société ou au marché du travail. Sans s'attarder sur le classement précis des 152 pays considérés, notons que la petite Slovénie est numéro 1 mondial en termes d'égalité homme-femme, du fait d'écarts salariaux très réduits, de temps partiel peu développé et d'une proportion assez élevée de femmes dans les conseils d'administration.
Et la place de la France alors ?
Elle est à la 12e place mondiale et à la 10e de l'Union européenne, derrière notamment l'Allemagne, la Suède, les Pays-Bas, l'Italie ou la Belgique. On peut remarquer aussi le classement assez médiocre des pays anglo-saxons. Le Royaume-Uni n'est qu'à la 35e place et les États-Unis à la 47e. Mais vous savez, Catherine, le plus important est de voir que les 16 premiers pays du classement sont tous européens, à l'exception de Singapour. Alors certes, l'égalité entre les genres doit encore s'améliorer en France ou en Europe, mais elle est totalement à construire dans les quelques 80 pays les moins développés du monde. Dans ces régions, les femmes sont tenues à l'écart de la société et du monde du travail, elles restent enfermées dans la maternité et sont totalement soumises aux hommes.
Daniel Vigneron de MyEurope.info, merci Daniel et à bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt Catherine.
Et avant de se quitter, c'est Cécile de Barge qui nous plonge dans le plus grand labyrinthe végétal du monde. Au cœur de la vallée du Pô, dans le centre de l'Italie, on peut se perdre dans ce dédale de bambou imaginé par l'éditeur italien Franco Maria Ricci. Suivez le guide.
Vue du ciel, une grande étoile de verdure se détache au milieu des champs de Fontanellato, dans la province de Parme. 7 hectares de vert sombre, maculés au centre par un ensemble de bâtiments imposants. Vu du sol, on ne voit plus rien, si ce n'est d'épais murs de bambou impossibles à distinguer les uns des autres. Le labyrinthe imaginé par Franco Maria Ricci ne se dévoile pas si facilement. À l'origine de cette idée singulière, un éditeur de la région, 77 ans au compteur et des rêves d'enfant. Tout est parti, raconte-t-il, de ses conversations avec Italo Calvino et Jorge Luis Borges, écrivain italien et argentin qu'il invitait dans sa maison de campagne il y a plus de 20 ans. De ces discussions, il nourrit une fascination pour les labyrinthes, un symbole à lui seul de la beauté, raconte l'éditeur. Lui qui rêvait tour à tour d'être une bibliothèque, un musée, une place de village avec son église, un dédale botanique ou encore un jardin, il décide de tout réunir en un seul endroit. Et c'est la surprise du labyrinthe de Franco Maria Ricci, 5000 mètres carrés en son cœur qui abrite une bibliothèque, une église en forme de pyramide, une salle de réception et un musée auquel devraient bientôt s'ajouter 3 restaurants et une cafétéria, ainsi que quelques chambres pour y passer la nuit. Tout n'est pas encore terminé, mais le labyrinthe est ouvert au public depuis la fin du mois de mai 2015 pour 18€ par personne. Avec en bonus, un secret qui n'a pas de prix. Pour sortir plus rapidement du labyrinthe, il se murmure qu'il faudrait se repérer grâce à la largeur des allées de bambou.
Et pour sortir d'Accent d'Europe, ce sera beaucoup plus facile. Et oui, l'émission est déjà terminée à la réalisation Françoise Grelot. Vous pouvez nous rejoindre sur rfi.fr et sur notre page Facebook. Restez à l'écoute dans un instant les infos.